Marche du Monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Marche du Monde, entièrement consacré à l'entrée au Panthéon d'une grande actrice française de l'histoire des femmes.
Ce n'est pas seulement l'hommage de la nation qu'en ce jour endeuillé nous vous présentons. C'est la France et l'Europe tout entière qui est là, témoignant de vos combats. Et au moment où vous nous quittez, je vous prie, Madame, de recevoir l'immense remerciement du peuple français à l'un de ses enfants tant aimés, dont l'exemple, lui, ne nous quittera jamais. C'est pourquoi j'ai décidé, en accord avec sa famille, que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon.
Le président de la République l'avait annoncé lors de ses obsèques nationales en juillet dernier. La France reconnaissante porte Simone Veil au Panthéon ce dimanche 1er juillet 2018. Au nom de toutes les femmes, Simone Veil est la pionnière du combat politique pour les droits des femmes à la liberté, à l'égalité et à la dignité. Un engagement conjugué à la volonté d'exercer un métier dès son plus jeune âge. Une conviction défendue avec féminité dans un monde d'hommes. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission dédiée à l'œuvre politique de Simone Veil, première femme de la Ve République à exercer les fonctions de ministre de plein exercice et auteur de la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse, je reçois une historienne de l'histoire des femmes et des lois Veil. Bonjour, Bibia Pavard. Comment vivez-vous cette entrée au Panthéon de Simone Veil? Que représente cet événement exceptionnel dans votre vie d'historienne, mais aussi dans votre vie de femme?
Effectivement, voir entrer une femme au Panthéon pour son œuvre et aussi parce qu'elle est une femme, c'est quelque chose que je suis ravie de pouvoir vivre en tant que femme, mais aussi en tant qu'historienne, parce que là, ça vient clore une séquence historique, à mon avis, très importante des mobilisations féministes depuis les années 70. Ça accompagne un moment historique important, donc c'est une grande date.
Après la scientifique Marie Curie et après les résistantes Germaine Tillion et aussi Geneviève de Gaulle-Antonioz, Simone Veil est donc la quatrième femme à recevoir le plus grand honneur de la République. Alors après le génie scientifique, après l'engagement dans la résistance, que célébrons-nous au fond en la personne de Simone Veil, Bibia Pavard?
On célèbre là la première femme politique à entrer au Panthéon en tant que femme politique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que les hommes politiques sont nombreux au Parlement. Et là, on célèbre finalement la normalisation de la figure de la femme politique. Et c'est tous ces symboles qui entrent en Panthéon le 1er juillet. Donc à la fois, effectivement, l'ancienne déportée, la rescapée des camps de la mort. Donc ça, c'est très important aussi que cette figure-là entre au Panthéon. L'européenne convaincue, donc c'est l'Europe qu'on célèbre finalement avec cette panthéonisation, à un moment où l'Europe est en crise, hein, donc c'est extrêmement symbolique. Et puis on célèbre donc effectivement cette femme qui a fait avancer les droits des femmes à un moment où le mouvement féministe est en plein renouveau.
Alors afin de mieux comprendre comment la petite Simone, née Jacob en 1926 à Nice, est devenue une héroïne de l'histoire de France et de l'histoire des femmes du monde, j'ajouterais, je vous propose, Bibia Pavard, de revenir sur ces différentes pages de son album personnel, ces itinéraires que vous avez cités d'une femme devenue publique, comme l'évoque son fils Pierre-François lors des funérailles nationales de Simone Veil. C'était aux Invalides le 5 juillet 2017.
Tu es devenue, en un peu plus de 40 ans, la mère de tant de Françaises et de Français qui t'ont choisi, j'allais dire adopté, pour seconde mère. Alors, au fil des années, nous avons appris à te partager, avec des proches et des moins proches, et même des inconnus, des millions d'inconnus. Enfin, depuis vendredi, dans la peine et le chagrin, nous sommes devenus les témoins prévenus, mais tout de même ébahis, d'un pays en deuil, presque apaisé, sinon un instant réconcilié, comme pour honorer les valeurs d'humanité et d'universalité, à la source de tous tes combats, et d'abord de celui de la réconciliation, pour une Europe de paix, une Europe de liberté, une Europe de solidarité et de progrès partagé. Les dizaines, les centaines, les milliers de témoignages de respect et d'affection reçus ces derniers jours sont autant de rayons de soleil, d'éclats de lumière, d'instants de bonheur, en définitive de raison. Pour nous, tes enfants et petits-enfants, de dire tout haut au pays tout entier, clair et fort, mais aussi avec notre profonde reconnaissance, en ce moment solennel, ce dernier mot que tu as prononcé, faiblement, mais si distinctement, avant de t'endormir pour retrouver papa pour toujours, ce dernier mot, merci.
Et c'est à son tour la nation française qui remercie Simone Veil en la destinant à reposer au Panthéon. Son mari, Antoine Veil, à ses côtés. Alors revenons, Bibia Pavard, sur ce couple formé par Antoine et Simone. Ils sont issus d'un même milieu social, bourgeoisie juive, républicaine, laïque. Comment se distribuent les rôles au sein de leur foyer ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Simone Veil, elle est à la fois très exceptionnelle et en même temps très représentative des femmes de sa génération. Du coup, elle est dans son couple comme de nombreuses femmes de sa génération, c'est-à-dire que c'est un couple où l'homme a quand même une place prépondérante. C'est lui qui a l'autorité parentale jusqu'à temps qu'elle réforme le code civil et qu'elle donne l'autorité parentale aux deux membres de la famille. Et donc, et finalement, ses choix à la fois personnels et professionnels sont subordonnés à ceux de son époux. Mais on voit à quel moment en fait ils divergent, puisqu'ils sont à Sciences Po ensemble, c'est là qu'ils se rencontrent, dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, en 1945. Ils tombent amoureux très vite, et finalement, Antoine Veil, lui, va tenter l'ENA. Tandis que Simone Veil, elle, laisse sa carrière de côté, entre parenthèses, pendant quelques années pour élever ses trois enfants et pour soutenir son mari dans sa carrière. Ce n'est que finalement, lorsque ses enfants sont un peu plus âgés, qu'elle va retravailler comme elle l'avait souhaité dès le début.
Et son mari va refuser qu'elle choisisse de devenir avocate. En revanche, il accepte la magistrature.
Oui, parce que avocate, c'est un métier qui semble d'ailleurs avocat. Je pense qu'il a dit à ce moment-là.
Bien sûr.
C'est un métier qui apparaît trop excessif pour une femme, alors que la magistrature ne la met pas dans une position publique. C'est ce qu'il croit, du moins au départ.
Et dans ces années 60, le passé de déporté à Auschwitz de Simone Veil est très méconnu. La vie de Simone Veil est bien marquée par cette expérience terrible des camps d'extermination nazis. Et je vous propose d'écouter la voix de celle dont l'arrestation a eu lieu le jour des résultats du baccalauréat, le 30 mars 1944 à Nice. Simone a été déportée à Auschwitz le 13 avril 1944 par le convoi 71 avec sa mère Yvonne et sa sœur Madeleine. Elles sont terrifiées à l'idée d'être séparées.
D'abord, ce qui était extraordinaire, exceptionnel, c'est que nous soyons toutes les trois entrées dans le camp. Parce que, bon, nous étions dans le même wagon, et nous sommes descendus ensemble. Enfin, j'étais, je dirais, à la limite d'âge inférieur pour entrer dans le camp, et maman était à la limite d'âge supérieur. Et il y avait peu de femmes ayant plus de 40 ans. C'était emmené dans les chambres à gaz. Elle avait tellement d'allure et tellement de... que nous sommes entrées toutes les trois. Le cadre, c'était une odeur pestilentielle qui était celle des cheminées qui fumaient sans arrêt, un ciel plombé qui était celui de ces grandes cheminées qui fumaient, la boue partout, même pendant l'été, pas une herbe, bon, les chiens qui aboyaient, les SS qui criaient, les gens en train de mourir dans les fossés et surtout toutes les déportées qui n'étaient plus que des squelettes dans leur tenue de bagnard qui pendouillaient pour qu'on ait l'air de loques, enfin. Et puis très peu de temps après, quelques mois après notre arrivée à Birkenau, il y a une des responsables du camp qui m'ayant vu à la sortie, on sortait tous les jours travailler dans des commandos de terrassement à l'extérieur, de temps en temps pour porter des pierres, porter des rails, creuser des fossés, ça dépendait des jours, mais enfin c'était toujours une activité de ce genre qui m'a tiré hors du rang, c'est elle qui contrôlait les sorties. Miracle, elle parlait un peu français, et qui m'a dit, écoute, vraiment, tu es très jeune, tu es très jolie, je voudrais bien faire quelque chose pour toi. Et il y avait un camp dont on parlait comme un peu mythique, comme ça, qui n'était pas très loin. Elle m'a dit, je vais t'envoyer à Bobrek, c'était ce camp, où il y avait à la fois une usine et puis aussi des travaux de terrassement, comme partout. Mais comme on était peu nombreux, la vie était plus facile. Et je dis, nous sommes trois, il y a maman et ma sœur, et donc partirons tous les trois. Mais moi je suis partie, elle était très mal un matin, je l'avais retrouvée très mal le soir quand j'étais revenue du travail. Elle m'a rapporté un peu à manger, parce qu'à Bergen-Belsen, pratiquement les dernières semaines, on distribuait pratiquement plus rien. Les gens, il y a des gens qui sont morts de faim, on a même dit qu'il y avait eu des cas de cannibalisme, mais en tout cas c'était dans un état, le camp était dans un état entre le typhus, la faim, la soif, quand même la soif, c'était presque pire la soif, il n'y avait plus d'eau potable du tout, les gens prenaient des risques énormes même d'être tués d'un coup de fusil par les SS qui gardaient les quelques mares d'eau stagnante qui restaient et qui devaient servir pour la soupe pour eux, parce qu'on avait, et les gens allaient tout de même essayer de prendre un peu d'eau tellement on mourait de soif. Et j'étais partie le matin ce jour-là, mais ayant trouvé maman, sachant qu'elle était très très mal, et c'est quand je suis rentrée qu'elle n'était même plus là, et elle n'était plus consciente, elle n'avait plus. C'était éteinte comme ça. Il n'y avait plus de souffle de vie. Mais je ne pouvais même pas. Ma sœur m'a dit, tu sais, de toute façon, nous allons survivre quelques jours de plus, mais pas dire davantage.
Ce que Simone Veil ne sait pas encore, c'est que la libération du camp d'Auschwitz approche, bien que quelques signes inhabituels se manifestent au quotidien.
Depuis quelques jours déjà, on entendait le canon, on voyait la lueur du front et on espérait être libérés par l'armée rouge. En fait, le 18 janvier, nous avons été regroupés et nous sommes partis en fin de journée. On est passé à Birkenau, on était très angoissés parce qu'on s'est demandé si on n'allait pas à Birkenau pour être à notre tour exterminés. Et nous avons été soulagés quand on a vu qu'on ne s'arrêtait pas. Et on était un peu plus loin, retrouver tout un très grand groupe qui étaient les gens qui étaient regroupés à Monowitz, qui était un très grand commando où on fabriquait du caoutchouc synthétique. Et nous sommes repartis en marche. Nous avons fait 75 km à pied à peu près dans la nuit, dans la neige. Il faisait moins 28 degrés, un froid horrible. Et nous sommes restés à Gleiwitz là 2 jours. Et ensuite, nous sommes partis dans des wagons ouverts. Et pendant ce temps-là, certains, les malades, et puis certains qui avaient pu se cacher, étaient restés dans le camp d'Auschwitz et ont été, eux, libérés, mais ils n'ont été libérés que le 27 janvier, c'est-à-dire plus d'une semaine après. Mais il en restait très peu. Nous avons été libérés, là, c'était, je crois, je ne sais jamais si c'est le 15 ou le 17, je crois que c'est le 15 avril, parce qu'on ne savait plus du tout les dates. Je suis rentrée en France le 23 mai, après 5 jours de camion, dans des conditions, je veux dire, très, très mauvaises. Très mauvaise. Et là, ça a été un peu une certaine amertume de voir combien on avait traîné à nous ramener. Je pense qu'en fait, comme il y avait une épidémie de typhus, on ne tenait pas tellement à ce que cette épidémie puisse se répandre en France. On a préféré nous laisser un peu plus longtemps là-bas, mais sans aucun soin pour la plupart. Ce qui fait que vraiment beaucoup de gens sont morts après la libération encore. Tout de suite après la libération, quand les Anglais sont arrivés, il y en a un qui m'a demandé quel âge, si j'étais mariée, si j'avais des enfants, etc. Je dis, mais quel âge vous croyez que j'ai? Alors, sans doute croyant être très, très poli, mais il dit, je ne sais pas, une quarantaine d'années. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on était. Les forces sont revenues au fond plus vite qu'on le pensait. Physiquement, les forces physiques. Le reste, c'est... n'a jamais revenu.
La voix de Simone Veil dans La Marche du Monde, entre les oreilles de notre invité Bibia Pavard. Simone Veil, survivante des camps de la mort, dit avoir récupéré physiquement, mais ajoute-t-elle, le reste n'est jamais revenu. Comment l'entendez-vous ?
Comme elle le dit, le retour ne veut pas dire retour à la normale. C'est une adaptation à la société française d'après-guerre qui, comme ça a bien été montré par divers historiens et notamment Annette Viviorca, n'écoute pas, n'entend pas la voix spécifique des déportés juifs. Et donc c'est la nécessité de se reconstruire dans une société qui est assez hostile assez déporté, ce qui fait que physiquement on peut se remettre d'une telle épreuve et c'est déjà assez fort de le faire, mais émotionnellement ça prend quand même beaucoup de temps.
Simone Veil est toute jeune hein, quand elle rentre, puisqu'elle a été déportée en 1944, elle n'avait que 17 ans. Et elle va continuer à se battre pour se reconstruire. Elle se marie, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 1946. Et elle devient magistrate. Elle fait une brillante carrière au plus haut niveau de l'État, sans jamais avoir rencontré Valéry Giscard d'Estaing. Alors comment expliquez-vous que ce jeune président de la République la choisisse comme ministre de la Santé en 1974 ?
Alors, à mon avis, il y a deux raisons. La première, c'est qu'elle a effectivement, comme vous l'avez dit, une carrière de haut fonctionnaire derrière elle, qu'elle a tissé un certain nombre de relations dans la haute fonction publique, mais aussi dans les milieux politiques à travers ses différentes fonctions, mais aussi à travers son époux Antoine, qui est donc énarque et qui a lui aussi des réseaux politiques importants. Donc elle bénéficie de l'ensemble de ces réseaux.
À l'époque, c'est indispensable pour la femme qu'elle est, pour faire carrière.
Je le pense, c'est quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui, mais en tout cas, elle peut bénéficier de personnes qui la soutiennent dans différents milieux, à la fois administratifs et politiques, et qui peuvent garantir de sa compétence. Et par ailleurs, c'est un moment, en 1974, où Valéry Giscard d'Estaing est à la recherche de figures féminines, parce qu'il souhaite faire de cette féminisation de son gouvernement une marque de modernité. Il faut rappeler qu'on est en plein dans le mouvement féministe des années 70 et que cette question des femmes est omniprésente. Et donc ces deux circonstances vont jouer en sa faveur pour le choix de Simone Veil comme ministre de la Santé.
Alors il s'agit pour elle de porter un projet de loi sur la légalisation de l'avortement. Mais pour bien comprendre l'enjeu, il faut revenir avec vous, Bibia Pavard, sur les luttes. Car le droit à l'avortement, c'est à la fois une question de santé publique, mais c'est aussi une question féministe. Alors si vous voulez bien, commençons par cette question de santé publique.
Alors il y a un premier problème qui est dénoncé depuis plusieurs décennies, qui est le danger pour les femmes d'avoir recours à l'avortement clandestin. La loi de 1920 qui interdit la pratique de l'avortement conduit donc les femmes qui ne souhaitent pas mener leur grossesse à terme à s'exposer à des dangers lorsqu'elles avortent par elles-mêmes, des septicémies, parfois des infertilités secondaires, parfois même la mort, hein, c'est le cas. Du coup, il y a une question de santé publique pour cette question de la santé des femmes par rapport à l'avortement clandestin. Et c'est l'angle qui a été pris par un certain nombre de personnes qui soutiennent l'élargissement de l'avortement thérapeutique à d'autres causes, notamment des militants du mouvement français pour le planning familial qui sont actifs depuis les années 60 et le début des années 70.
Et dans le même temps, puisqu'on est dans cette période des années 70, post donc 68, où à leur tour, les femmes font leur révolution en quelque sorte, de quelle façon cette question de la légalisation de l'avortement s'inscrit également dans les luttes féministes.
Alors, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment au début des années 70 que la question de l'avortement devient véritablement une question féministe, parce que le mouvement de libération des femmes s'insère dans le débat préexistant pour transformer les termes du débat et en faire une question de droit des femmes à disposer de leur corps. Et là, il ne s'agit plus d'une question de santé, mais d'une question de liberté, la possibilité de pouvoir disposer de son propre corps.
Alors, autant de thèmes que nous retrouvons dans notre reportage d'archives consacré à Simone Veil, ministre de la Santé, porteuse de la loi sur la légalisation de l'avortement, devant un Parlement presque exclusivement masculin en 1974.
Quand je suis entrée à la Chambre des députés, j'ai dû passer dans une haie de gens qui étaient là avec leur chapelet à dire des prières et en même temps à jeter des imprécations contre moi.
La parole est à Madame le ministre de la Santé.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps.
Un autre aspect de la lutte de la femme, c'est ce droit de disposer librement de son corps, pour reprendre une formule affectionnée par les féministes, c'est bien sûr le débat sur l'avortement, un débat sérieux qui méritait d'être engagé, même s'il donne lieu à des excès dans un sens comme dans l'autre. Le procès de Bobigny en est l'illustration. Quand la politique s'en mêle, ce n'est plus seulement le cas d'une jeune fille traduite en justice pour s'être fait avorter. Il semble que la publicité, que certains trouveront tapageuse et déplacée, faite autour de cette affaire, a joué en faveur des accusés. Hier, le tribunal correctionnel de Bobigny a rendu son verdict. Les quatre femmes qui étaient au banc des accusés s'en tirent relativement bien. Madame Chevalier, la mère de la jeune fille, est condamnée à 500 francs d'amende avec sursis. Deux de ses amies qui l'avaient aidée à trouver une adresse ont été relaxées. Et l'avorteuse elle-même, qui avait touché 1200 francs pour prix de ses services, disons, est condamnée à un an de prison avec sursis.
Verdict du procès de Bobigny, nous sommes en 1972. La clémence du tribunal montre que la dépénalisation de l'avortement devient nécessaire. Et certains hommes d'église se placent même du côté de la jeune fille qui a pratiqué l'avortement et non du côté de l'ordre des médecins.
Ça a été ce qui a remué au fond le pays, parce que ce procès, je le répète, politique, est passé donc à l'extérieur, sans compter qu'il était soutenu par des manifestations de femmes. Il y avait Delphine Seyrig, je crois Catherine Deneuve au tribunal, c'était archi-comble, et il y avait les télévisions. On a senti qu'il y avait un démarrage là-dedans.
Gisèle Halimi.
Et il est passé dans la rue, des manifestations, ce qui fait que tout naturellement le relais dans une démocratie parlementaire, le relais est politique, donc parti et assemblée, et donc il a été inscrit à l'ordre du jour.
Le débat monte en puissance dans une société française très clivée politiquement. Une partie de la droite conservatrice est farouchement opposée à la légalisation de l'IVG, tandis que la gauche dénonce l'hypocrisie d'un système. Des célébrités comme Catherine Deneuve ou Simone de Beauvoir signent le manifeste des 343 salopes.
Je crois que la première démarche que j'ai faite en tant que féministe, ça a été de signer le manifeste qu'on a appelé des 343 salopes, disant que nous avions avorté, où il y avait des noms connus et il y avait des noms beaucoup moins connus. Mais dans l'ensemble, c'était une revendication des femmes pour l'avortement. Parce qu'on pensait que si nous disions que nous avions avorté, eh bien, on aurait dû nous arrêter. Mais comme, en fait, le gouvernement n'a pas osé nous arrêter, implicitement, il ferme les yeux sur la question.
Courageuse pour les uns, scandaleuse pour les autres, les signataires du manifeste sont bientôt suivis par des médecins qui, à leur tour, créent l'événement dans le Nouvel Observateur en affirmant avoir pratiqué l'avortement.
Le débat sur l'avortement est relancé avec un manifeste publié dans un hebdomadaire, le Nouvel Observateur. 330 médecins français mettent leur signature au bas d'une pétition en faveur de la liberté de l'avortement. Et ils reconnaissent avoir pratiqué des avortements ou aidé à ce qu'ils soient réalisés. Le débat est ainsi rouvert de façon évidemment spectaculaire puisque le manifeste est publié dans un hebdomadaire et que le sujet de toute façon n'a pas fini de soulever des passions. À l'heure actuelle, on en est toujours au stade des idées, des échanges d'arguments, mais la loi française est très précise. L'article 317 du Code pénal prévoit des peines de 1 à 10 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu'à 72 000 francs.
La société française évolue. Mai 68 est passé par là. Et toutes les questions liées à la sexualité sont enfin abordées. Mais encore faut-il que la classe politique ait le courage de proposer une solution aux problèmes générés par les avortements clandestins. Tout juste élu, c'est le président Valéry Giscard d'Estaing qui décide de dépénaliser l'avortement. Nous sommes en 1974.
Concernant le problème de l'avortement, c'est un sujet qui devrait être traité par le Parlement lors de sa prochaine session, de façon à être tranché avant la fin de la présente année. Et puisque c'est au Parlement de trancher, il ne m'appartient pas de le faire, et de le faire à l'occasion d'une réunion de presse, mais je souhaite qu'il tranche dans un sens qui soit libéral et non répressif. Enfin, j'ajoute que j'ai donné comme instruction au gouvernement de ne plus entreprendre de poursuites dans l'attente du vote du Parlement à l'encontre des femmes qui se verraient appliquer la loi de 1900.
Et c'est à Simone Veil, ministre de la Santé, de convaincre le Parlement.
Si tant de femmes ont pris le risque d'une lourde condamnation judiciaire, si tant de médecins ont eux aussi bravé la loi et en ont dit publiquement les raisons, c'est à n'en point douter que l'opinion a mesuré l'iniquité d'une législation qui n'a jamais atteint le but qu'elle poursuivait, c'est-à-dire empêcher les avortements. Il y a pour changer notre législation bien d'autres motifs que cette inefficacité. Des motifs si graves que bien peu, à vrai dire, souhaitent son maintien ou croient encore son application possible. Le premier motif, c'est l'inégalité insupportable des femmes devant une grossesse non désirée. Cette inégalité ressort non seulement des statistiques judiciaires, ce sont toujours des femmes de milieux très modestes qui sont en cause, mais aussi de ce que chacun peut constater aujourd'hui. Pour celles qui peuvent disposer d'une somme suffisante, combien l'angoisse et la solitude sont moins redoutables. Combien cette épreuve, car c'est toujours une épreuve pour toute femme, est adoucie par la sécurité qu'offre une clinique en France ou à l'étranger. Pour les autres, qui n'ont trouvé aucune de ces filières illégales mais médicales, ce sont alors les solutions bien connues, dont l'évocation est difficilement supportable, et qui les conduisent, au bout du compte, dans ces services hospitaliers occupés en permanence par celles qui ont eu recours à des procédés mutilants. Quelques-unes payeront de leur vie ce geste de désespoir, et beaucoup d'autres seront atteintes d'une stérilité ou d'un handicap qui assombrira toute leur existence. Que la vie, que la santé, que les futures maternités d'une femme soient liées de la sorte à son niveau socio-professionnel, c'est là une injustice insoutenable dont la majorité des citoyens est maintenant consciente et que nous ne pouvons plus tolérer parce que le sens de l'effort social contemporain est de réduire les inégalités devant la souffrance ou l'adversité.
Et Simone Veil a réussi à faire consensus et à convaincre une majorité de parlementaires de droite et de gauche pour voter la loi pour la légalisation de l'avortement. Comment a-t-elle réussi, Bibia Pavard, vous qui êtes une spécialiste de la loi Veil?
Alors c'est vraiment chose difficile, il faut le rappeler, il y a eu une première tentative de modification de la loi en 1973 qui a échoué au Parlement parce que justement ce consensus n'a pas été trouvé. Et donc c'est le même Parlement qui va voter la loi quelques mois plus tard finalement.
Donc a priori elle part battue.
Elle part battue, mais elle travaille très très bien sa stratégie pendant plusieurs mois. Et son idée, c'est d'être à la fois assez libérale pour pouvoir obtenir les voix de la gauche, qui voit en elle une figure féminine qui défend les femmes au Parlement. Et elle va surtout le faire autour de l'idée que ce sont les femmes qui doivent décider, hein, et que ce n'est pas un couple qui décide, ce ne sont pas des commissions de médecins ou de spécialistes qui décident pour les femmes. Donc ça, c'est important pour la gauche. Et d'autre part, elle va réussir quand même à obtenir les voix d'une partie de la droite, en limitant très largement cette loi quand même, il faut le rappeler, notamment sur les délais, sur un entretien préalable, sur le non-remboursement par la Sécurité sociale, sur le fait que c'est une loi qui est votée provisoirement pour 5 ans. Donc elle arrive à créer un consensus aussi sur sa personne. Il faut le dire, les débats sont extrêmement intenses, très difficiles, les invectives fusent, hein. C'était déjà le cas en 73, hein. C'est un sujet extrêmement clivant que celui de l'avortement, et vous l'avez rappelé, c'est une femme quasiment seule face à une assemblée d'hommes. Il y a moins de 10 femmes en tout au Parlement à ce moment-là. Donc elle fait de cette expertise de genre finalement aussi un atout qui est remarqué à gauche de l'échiquier politique à ce moment-là.
Donc une excellente avocate, hein, même si son mari n'a jamais voulu qu'elle devienne avocate, Simone Veil fait cette démonstration de son talent d'argumentation. Bibia Pavard, on l'a entendu dans ce reportage d'archives, elle est huée. Il faut rappeler quand même la violence subie par Simone Veil lorsqu'elle vient discourir dans cette assemblée masculine. Elle se fera même accuser de nazie, elle qui a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors je pense que sur le moment, ça ne se focalise pas vraiment sur sa personne, mais sur la réforme elle-même. Il y a une très grande violence et virulence autour de cette libéralisation de l'avortement de la part d'une droite catholique qui voit un changement de société totalement terrible et qui défend la vie, c'est les termes qui sont employés à ce moment-là. Donc il y a vraiment une surpolitisation des enjeux, et donc il y a effectivement des militantes et des militants catholiques qui égrènent des chapelets à l'entrée, mais il faut aussi le rappeler, il y a en même temps des militantes féministes qui soutiennent la réforme, hein. Donc c'est cette violence que l'on perçoit dans le Parlement, et la référence à la Shoah, c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà en 73. C'est un des arguments majeurs des personnes qui s'opposent à la légalisation de l'avortement, cette comparaison entre l'eugénisme nazi et la légalisation de l'avortement.
Alors par ailleurs, ce qui est intéressant, Bibia Pavard, lorsque l'on vous lit, c'est que l'on découvre que ce combat pour les femmes, Simone Veil l'avait déjà engagé en modifiant la loi Neuwirth de 67 sur la contraception. Ça, il faudrait le rappeler.
Oui, parce qu'on parle de la loi Veil, mais finalement il y a deux lois Veil. Et la première est tout aussi importante. Elle est votée juste avant, en 74. Elle prépare la seconde. C'est la libéralisation, finalement la banalisation. Elle le dit elle-même, de la libre contraception. La loi Neuwirth, de la même façon, était passée en 67, mais avec des affrontements très musclés au Parlement, avec de nombreuses restrictions. Et là, sur la loi de 74, Simone Veil revient sur ces restrictions, qui étaient notamment l'autorisation parentale pour les mineurs, le non-remboursement par la Sécurité sociale. Donc tout ça s'est terminé en 74, et finalement, la contraception devient quelque chose de globalement très accepté, l'idée étant de favoriser la contraception contre l'avortement, qui doit rester, selon Simone Veil, un recours exceptionnel.
Donc remboursement par la Sécurité sociale et accès des mineurs à la contraception. Néanmoins, les féministes ne semblent pas totalement satisfaites du texte de 74 qui légalise l'IVG.
Alors effectivement, le rapport avec le mouvement féministe est assez compliqué au moment du débat sur l'IVG. À la fois, c'est une avancée remarquable, hein, que cette légalisation, et en même temps, la loi est apparaît comme tellement restrictive qu'elle est dénoncée comme une loi de classe d'abord, du fait du non-remboursement par la Sécurité sociale, et aussi une loi qui culpabilise d'une certaine manière les femmes, d'autant plus que les féministes très rapidement vont se porter sur la question de l'application de cette loi, et le fait que la clause de conscience soit rappelée dans la loi de 75 fait que il y a de grosses difficultés à appliquer la loi dès 75-76.
Alors on a entendu dans ce reportage d'archives les déclarations de l'époque de Simone de Beauvoir, donc pionnière justement du féminisme en France, auteur du deuxième sexe, qui a signé donc ce manifeste des 343 salopes, donc des femmes qui se sont engagées en faveur de cette légalisation de l'avortement. Est-ce que les deux Simone se parlaient, Simone Veil et Simone de Beauvoir?
Alors, si vous voulez, c'est vraiment deux pôles politiques opposés dans les années 70. Parce qu'il faut rappeler que le mouvement féministe des années 70 est un mouvement féministe extrêmement radical, ancré à l'extrême gauche, et qu'il y a une très forte lutte des femmes qui précède le combat d'une femme, Simone Veil, au Parlement, et que ce ne sont pas les mêmes positionnements politiques du tout. Et d'ailleurs, Simone Veil fait tout pour se distinguer du MLF et de Simone de Beauvoir, hein, en ayant une position qui se veut beaucoup plus modérée. Donc finalement, elles jouent chacune leur rôle dans ce combat, dans cette lutte, mais ce sont deux pôles opposés de cette libéralisation de l'IVG.
Est-ce qu'elles se sont rencontrées?
Alors, je ne sais plus si elles se sont rencontrées. Je sais que Simone Veil a rencontré Gisèle Halimi, qui est une actrice très importante de ces luttes.
Et qu'on a entendu également, qui était l'avocat de cette jeune fille, donc relaxée hein, grâce à ce procès de Bobigny.
Tout à fait. Et donc, c'est plutôt en tant que juriste qu'elle est consultée, parce qu'elle avait notamment rédigé une proposition de loi portée par les socialistes au Parlement. Mais la rencontre avec Simone de Beauvoir, j'en doute.
Alors, en tant qu'historienne, est-ce que néanmoins vous considérez que la loi Veil est une loi féministe, Bibia Pavard?
Alors, pour moi, c'est une loi qui est devenue féministe au fil du temps. C'est une loi qui a beaucoup évolué, d'abord parce qu'elle a été modifiée par différentes femmes politiques, hein, depuis donc son vote en 74 et sa promulgation en 75. Donc il y a eu le remboursement par la Sécurité sociale en 1982 porté par Yvette Roudy, puis la mise en place d'un délit d'entrave à l'IVG, à un moment où les mobilisations anti-IVG sont très fortes au début des années 90. Et puis, il y a eu l'allongement des délais dans les années 2000. Et puis finalement, en 2014, par Najat Vallaud-Belkacem aussi, la suppression d'un terme qui était un peu polémique chez les féministes, qui avait été trouvé de façon stratégique par Simone Veil, qui était que c'était les femmes en situation de détresse qui pouvaient demander l'IVG. Le fait de retirer ce terme met l'accent sur le fait que c'est un choix libre des femmes, un droit, alors que ce n'était qu'une concession jusque-là. Et c'est donc progressivement que cette loi est devenue une loi féministe.
Alors rappelons que pour sa part, Simone Veil était à nouveau ministre entre 93 et 95 dans le gouvernement d'Édouard Balladur, ministre d'État des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, et chargée du droit des femmes. Alors est-ce que elle-même, Simone Veil, engagée bien sûr dans le combat pour les libertés et les dignités des femmes, est-ce qu'elle-même elle est devenue féministe?
Alors c'est intéressant parce que elle n'utilise jamais véritablement ce terme.
Mais non.
Même dans son autobiographie, elle ne se définit pas comme telle. Néanmoins, elle a de plus en plus revendiqué le combat pour les droits des femmes. Et c'est vrai que les années 90 correspondent pour elle à un engagement pour la parité en politique. Et c'est en tant que femme politique qu'elle va défendre la place des femmes dans le monde politique, notamment en signant le manifeste des 10 pour la parité en 1996, et donc en mettant sa notoriété dans la balance pour faire avancer cette question de la parité en politique. Et c'est aux côtés des mouvements féministes qu'elle agit à ce moment-là. Néanmoins, voilà, c'est un terme qu'elle ne revendiquera jamais.
Et néanmoins, entre-temps, Simone Veil a poursuivi son parcours de pionnière, puisqu'elle est la première femme à présider le Parlement européen de 1979 à 1981. Et dans son discours, elle fait référence directement à son expérience personnelle de la guerre et de la déportation.
Nous, les derniers survivants, mes camarades, nous avons le droit et même le devoir de vous mettre en garde et de vous demander que le plus jamais ça de nos camarades devienne réalité.
Je crois que ce qu'il faut, c'est regarder vers l'avenir, et que dans l'avenir, nous puissions vivre ensemble en disant que nous avons une Europe en commun, et en commun, lutter pour qu'on sache, mais aussi lutter pour des valeurs. Ça ne suffit pas de connaître le passé, il faut aussi avoir des valeurs qui permettent que ça ne recommence pas. Et c'est ce que j'attends justement de notre avenir commun, à nous tous les Européens.
Pour relever les défis auxquels l'Europe est confrontée, c'est dans trois directions qu'il nous faudra l'orienter. L'Europe de la solidarité, l'Europe de l'indépendance, l'Europe de la coopération. Parce qu'il est élu au suffrage universel et qu'il tirera ainsi de cette élection une autorité nouvelle, ce Parlement aura un rôle particulier à jouer pour permettre aux communautés européennes de parvenir à ses finalités et de relever ainsi les défis auxquels elles sont confrontées. À cet égard, l'élection historique du mois de juin 1979 a soulevé en Europe un espoir, un immense espoir. Les peuples qui nous ont élus ne nous pardonneraient pas de ne pas savoir assumer cette responsabilité, ô combien lourde, mais aussi ô combien exaltante.
La voix de Simone Veil, européenne convaincue, un discours humaniste qui interroge l'actualité d'une Europe désunie face à la crise migratoire. Bibia Pavard, je pense particulièrement à toutes les violences subies par les femmes migrantes. À votre sens, est-ce que c'est une injustice à laquelle Simone Veil était sensible ?
Alors, c'est difficile de parler à sa place, mais c'est vrai que une de ses convictions majeures, c'est cette défense de l'Union européenne, conviction qu'elle tire de sa propre expérience. Elle est de cette génération qui porte la construction européenne à la suite de la Seconde Guerre mondiale comme une réponse à apporter face à ces conflits extrêmement meurtriers. Elle est le symbole de cette réconciliation franco-allemande du second XXe siècle. Et donc, elle est convaincue de cette nécessité politique de l'Europe, ce que les générations qui suivent ne vivent pas de la même façon. Et c'est assez évident en lisant son parcours. Alors, effectivement, je pense qu'elle aurait été sensible à cette question des migrants, pour deux raisons, parce que c'est effectivement une tragédie que vivent des milliers de personnes, qu'on touche à la question aussi de l'enfermement de ces populations, et qu'elle-même, elle a travaillé, lorsqu'elle était magistrate, à améliorer les conditions des prisonniers. Donc je pense qu'elle aurait été sensible à cette question.
On peut peut-être d'ailleurs préciser qu'effectivement, au tout début de sa carrière, elle s'intéressait aux conditions d'enfermement en France, mais également en Algérie, qui était encore département français.
Tout à fait, elle est dans l'administration pénitentiaire à un moment en pleine guerre d'Algérie, et elle est particulièrement sensible au traitement que l'on fait aux prisonniers politiques par exemple en Algérie. Donc elle est une grande humaniste, et donc je pense qu'effectivement la situation actuelle l'aurait révoltée.
Donc en ce jour de commémoration, en ce jour historique d'entrée de la première femme, je dirais, politique au Panthéon, Bibia Pavard, c'est intéressant de revisiter ce parcours de Simone Veil, parce que l'on voit qu'à une époque où justement être une femme politique, on le devait aussi à l'accompagnement de son mari, Simone Veil a puisé son énergie aussi dans les épreuves qu'elle a connues à titre personnel. Est-ce que pour vous, c'est une dimension importante? Et est-ce que c'est pour cela que vous insistez sur le fait que c'est une femme politique qui entre au Panthéon, mais également une rescapée des camps de la mort?
Alors, effectivement, je pense que là, cette entrée au Panthéon vient clore son parcours de pionnière. Elle a été pionnière toute sa vie, dans son parcours professionnel, pionnière lorsqu'elle était la première femme ministre de plein exercice, la première présidente du Parlement européen. Elle a fait office de pionnière en tant que femme, et finalement elle est encore pionnière dans son entrée au Panthéon en tant que femme politique pour l'ensemble de ses actions. Je pense que il y a un deuxième aspect dans votre question qui est son statut de rescapée. C'est aussi la volonté de célébrer la mémoire de cette génération de rescapés avec cette entrée au Panthéon. Et donc on a un ensemble de symboles qui s'articulent autour de sa personne. Et elle fait consensus aujourd'hui autour de toutes ces questions de la Shoah, de l'Europe, du droit des femmes. Mais il faut aussi se rappeler que ce n'était pas si évident que ça, parce que d'une part, la mémoire de la Shoah a mis du temps à être prise en charge par le politique en France. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas si ancien que ça. Deuxièmement, la question de l'avortement fait consensus aujourd'hui, même si on a un renouveau des mobilisations contre l'IVG, c'est quelque chose qui apparaît comme un droit installé. Il faut quand même rappeler la virulence des attaques des anti-avortements sur sa figure dans les années 80-90.
Installé en France et qui fait l'objet de nombreux combats partout dans le monde.
Voilà, tout à fait. Et donc là, on a symboliquement quelque chose de très fort. Mais je pense que l'accent est particulièrement mis sur cette question européenne, parce que c'est vraiment cette dimension européenne aussi qui lui a donné cette envergure internationale, qui en a fait quasiment une femme d'État, là où je pense qu'elle aurait pu être la première femme présidente de la République, mais comme elle n'était pas politicienne, mais seulement femme politique, c'est finalement au Panthéon qu'elle finit, et c'est une belle reconnaissance pour l'ensemble de sa carrière.
Merci Bibia Pavard. J'encourage nos auditeurs à lire vos ouvrages passionnants. Tout d'abord, Les lois Veil aux éditions Armand Collin, et puis Si je veux, quand je veux aux presses universitaires de Rennes. Simone Veil au Panthéon, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et mise en onde par Hugo Violas, avec la complicité de notre stagiaire Juliette Flamand. Encore plus d'informations et de photos à découvrir sur les pages internet et Facebook de La Marche du Monde. Écrivez-nous, réagissez, podcastez, cette émission c'est la vôtre.
J'ai eu une vie très riche. Je ne suis pas du tout fière de moi. J'ai eu une vie terrible, avec des drames qui m'ont paru, au moment où je les ai subis, absolument insurmontables. Et je me suis dit parfois que jamais je ne pourrais les dépasser et continuer à vivre normalement. Mais je trouve qu'à côté de ça, j'ai eu une vie exceptionnellement riche, beaucoup de chance sur tous les plans. Et j'ai toujours tellement, je le ressens toujours tellement, que j'ai toujours envie de toucher du bois. Bien que je ne sois pas superstitieuse, j'ai toujours envie de dire, je ressens profondément ce privilège.